France Culture, les matins d'été.
Et que aujourd'hui un rendez-vous particulier avec vous, Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Guillaume Erner.
Puisqu'aujourd'hui débutent les rencontres de Pétrarque, avec comme question générale de ces rencontres, sommes-nous enfin prêts pour la mondialisation et nous devons accueillir la lauréate du prix Pétrarque, un moment important. On peut d'ores et déjà donner le nom de cette lauréate, Hervé.
Il s'agit de Joël Zask, qui semble-t-il est avec nous en ligne.
Bonjour Joël Zask.
Bonjour.
Bah, félicitations. Hein. Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique aux éditions Premier Parallèle. C'est donc votre essai et félicitations pour avoir remporté ce prix. Peut-être avant d'évoquer ce prix, dire en deux mots, Hervé Gardette, ce que ces rencontres de Pétrarque vont être cette année.
Oui, elles ont une configuration un petit peu particulière puisque chaque année nous sommes à Montpellier en public dans la cour du rectorat cette année. Coronavirus oblige, ça va se passer en studio à Paris en mode semi-confiné, ce qui n'enlève rien à la qualité, enfin j'espère en tout cas, de la programmation et surtout des intervenants. Nous nous interrogerons donc tous les jours de la semaine de 18h15 à 19h. Autour de cette question, sommes-nous enfin prêts pour la mondialisation? La question nous a été inspirée évidemment par l'actualité. Est-ce que ce que nous venons de vivre va nous engager vers peut-être une autre forme de mondialisation? On a beaucoup entendu parler de relocalisation, par exemple. Ce sera un des thèmes que nous aborderons. Ce sera mercredi en compagnie, entre autres, de José Bové et d'Éric Orsena. On va se poser la question de la gouvernance mondiale. À qui confier le gouvernement du monde? Jean-Christophe Ruffin, vous savez, qui est romancier, qui a un passé de diplomate, et qui sera en discussion avec la juriste Monique Chemillet-Gendreau, qui vient de publier un livre dans lequel elle imagine un conseil de résistance mondiale. Et puis il y aura aussi Justin Weiss. On va parler de l'homme et de sa place dans la nature. On va parler du sentiment d'impunité qui a peut-être pu être celui des Occidentaux pendant longtemps. L'Occident confronté à une série de crises, là encore l'épidémie, bien sûr, mais aussi le terrorisme et puis évidemment la crise écologique. Ce sera avec Achille Mbembe demain, Laetitia Stroche-Bonnard et Romain Bertrand, je ne les ai pas tous cités. Puis ce soir, on démarre notre discussion avec un thème un peu plus général. Dans quel monde vivons-nous? Ça pourrait être un thème du bac de philo. Et bien c'est ce thème que nous allons soumettre ce soir à Régis Debray et Philippe Descola.
Voilà donc pour les rencontres.
Dialogue tout à fait inédit ce
de
soir.
De Pétrarque, la 34e édition avec une forme particulière pour les raisons que vous imaginez. Joël Zask, vous êtes enseignante en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Comment avez-vous été conduite à vous intéresser au phénomène des méga-feux? C'est le thème de cet essai qui vous a valu ce prix Pétrarque, « Quand la forêt brûle » aux éditions Premier Parallèle.
Bon, mais d'abord, je tiens à remercier bien sûr le jury France Culture de m'avoir accordé ce prix qui m'honore beaucoup et dans lequel, d'une certaine façon, je reconnais à la fois des valeurs humanistes, démocratiques, qui sont les miennes depuis longtemps, qui récompensent aussi un travail d'enquête que j'ai mené et puis une maison d'édition. Et l'ensemble me fait que me sens très honorée, et je tenais à le dire pour commencer. Et il y a des liens d'ailleurs entre finalement la teneur de ce prix dans une certaine mesure et les raisons pour lesquelles je me suis intéressée au feu. Je m'y suis intéressée en tant qu'usager, en tant qu'observateur, en tant que victime aussi, victime relativement légère, mais victime tout de même, puisque j'ai été confrontée à la disparition d'une forêt que je connaissais bien dans le Var, et qui a été un peu un déclencheur pour moi. Ce feu qui a dévasté la forêt du Cap Bénat à l'été 2017, ça fait donc 3 ans maintenant quasiment, était un feu qui m'a semblé antinaturel, hors norme, non pas bon pour les équilibres naturels comme on le disait à l'époque, ou bon pour la forêt, mais au contraire très dévastateur. Et ce qui l'a dévasté en premier, c'était le paysage. Le paysage, c'est-à-dire, en fait, a provoqué pour tous les riverains d'ailleurs une espèce de sentiment de perte, de blessure qui ne cicatrisera jamais, de blessure profonde qui était liée vraiment à la disparition du paysage familier qui les avait accompagnés, dans lequel ils avaient toutes sortes de souvenirs et puis aussi à partir duquel ils projetaient dans une certaine mesure leur futur et leurs actes à venir.
Et oui, parce que l'une des choses que... Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, Joël Zask. L'un des points que vous abordez, c'est de considérer que ces méga-feux, ces grands feux de forêt donc, sont à la fois des indicateurs, des révélateurs, des avertisseurs qui nous permettent de voir que quelque chose est en train de se passer, Joël Zask.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai considéré ces feux comme un tremplin pour examiner les impasses dans lesquelles nos représentations dominantes des relations entre l'homme et la nature nous avaient placés. Et les feux, en l'occurrence, sont de tels révélateurs que, dans une certaine mesure, je pense qu'ils ont joué un rôle pour expliquer le passage relativement écologique, relativement vert des résultats de nos élections municipales qui viennent d'avoir lieu. Je pense qu'effectivement, il y a dans le feu quelque chose... d'irrépressible. Le feu n'est pas, enfin surtout les méga-feux dont il s'agit là, qui sont des feux hors normes, des feux qu'on ne peut pas combattre malgré toutes les prétentions, qu'on ne peut que prévenir. Et donc il y a quelque chose qui touche très profondément les gens. On ne peut pas les nier, on ne peut pas les dénier, on ne peut pas les dénigrer, mais on ne peut pas non plus leur échapper. Et en l'occurrence, contrairement à d'autres catastrophes écologiques qui sont peut-être plus lentes, qui sont plus progressives, qu'on peut nier dans une certaine mesure, auxquelles on pense pouvoir s'adapter à la longue, eh bien voilà, les feux nous passent devant une responsabilité immédiate. Parce qu'il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que ces feux, ils sont tous criminels. Et j'ai envie d'insister un petit peu là-dessus. Criminels directement ou indirectement. On sait qu'aujourd'hui, enfin ces méga-feux, enfin il faut préciser que ce sont des feux qui voisinent au contact de feux saisonniers ou de feux... dirigés qui sont d'une autre nature. Ces méga-feux représentent à peu près 3% des feux de forêt aujourd'hui, mais ils brûlent 90% des surfaces. Hein. Donc voilà, on a cette proportion. Là, on parlait de mondialisation. On a un phénomène mondial. Par exemple, les feux qui ont eu lieu en Australie ont généré des fumées qui ont fait le tour de la planète et sont revenus à leur point de départ au bout de 18 jours. Donc là, c'est ce genre d'images qui doivent nous initier en quelque sorte à l'idée que les phénomènes écologiques qui sont liés au dérèglement climatique sont des phénomènes effectivement mondiaux. Mais le fait est, c'est ça qui est très intéressant, que les solutions sont locales. Voilà, j'ai envie d'insister un petit peu là-dessus.
Hervé Gardette.
À la mesure où elles mobilisent les gens sur place qui sont concernés au premier chef.
Joël Zask, le fait que ces phénomènes soient mondiaux, ça inspire à certains l'invention d'un nouveau concept. Alors c'est vrai que la transition écologique est très très riche hein, de nouveaux concepts, mais certains parlent de pyrocène pour qualifier cette période de ces méga-feux. Est-ce que c'est un terme que vous reprenez, vous, à votre compte ?
Pyrocène.
Pyrocène, oui.
Pyrocène. Ben, en fait, c'est un terme que j'ai utilisé dans mon livre et que j'ai repris de Stephen Pyne, qui est un historien du feu. Et en fait, il y aurait deux pyrocènes. D'abord, il y a le pyrocène qui correspond aux usages humains des feux de forêt, usage qui remonte à Homo erectus, c'est-à-dire à 2 millions d'années. Et comme l'explique Stephen Pyne, partout où les humains se sont dirigés, ils ont mis le feu et ils ont façonné le paysage de notre planète, à quelques exceptions près, si bien que, dans une certaine mesure, la forêt a besoin des feux. Et ces feux sont d'origine humaine. Mais on peut dire que, même s'ils ont eu des effets écologiques très profonds, depuis au moins 500 000 ans, un équilibre avait été trouvé. En l'occurrence, ça n'est plus le cas depuis une centaine d'années. L'équilibre a été complètement rompu. Et là, on passe à un pyrocène 2, en quelque sorte. C'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait plutôt à un pyroterrorisme, c'est-à-dire au fait que d'un côté, on a généré un dérèglement climatique du fait de nos activités industrielles. De l'autre côté, on a détruit l'environnement naturel et supprimé dans une certaine mesure sa résilience. Et puis par ailleurs, au nom d'une expertise dont justement se réclame la grande industrie, on a interdit toutes les activités traditionnelles et on a supprimé, soit culturellement, soit physiquement, les peuples qui étaient porteurs des savoirs de la forêt et des brûlages dirigés. Donc l'ensemble de ces facteurs, effectivement, crée une situation, je dirais, explosive et dont certains criminels, alors là pour le coup volontaires, vont profiter pour mettre le feu et provoquer la désolation. Donc on a un ensemble là comme ça qui est un peu effrayant, mais en même temps qui implique la responsabilité humaine et donc qui implique aussi que nous réfléchissions à des solutions qui sont à portée de main.
Vous évoquez aussi Joël Zask dans cet essai « Quand la forêt brûle » qui vous vaut donc le prix Pétrarque 2020. Vous évoquez la naissance d'un complexe industriel du feu. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ce complexe industriel du feu, c'est justement une espèce de développement technologique très très puissant lié à la lutte contre le feu. Alors, il s'agit de robots qui évoquent des monstres d'un autre âge. Il s'agit de flottes aériennes, de flottes terrestres. Il s'agit d'armures et d'armatures. Il s'agit donc, en fait, d'un arsenal extrêmement développé et très coûteux, au point qu'il absorbe d'ailleurs une grande partie maintenant du budget des parcs et forêts nationaux. Donc pour lutter contre les flammes une fois qu'elles sont là. Mais en fait, comme tous les spécialistes le reconnaissent aujourd'hui, une fois que le méga feu est là, c'est trop tard. Donc finalement, tout cet outillage extrêmement onéreux n'est pas d'une efficacité remarquable par rapport à la prévention. Il peut, c'est vrai, sauver des vies, sauver quelques biens, mais il ne peut pas prévenir le développement catastrophique du méga feu qui, il faut le rappeler ici, participe aussi très très largement au dérèglement climatique, puisqu'il est responsable de quasiment 30% des émissions de dioxyde de carbone.
Hervé Gardette.
Il y a la question de la prévention, il y a la question de la lutte contre les incendies lorsqu'ils ont lieu, et puis après il y a la question de la répression, puisque vous parlez de feux criminels, soit intentionnels, soit non intentionnels, mais dans votre intervention et dans votre livre, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort. Il y a cette autre notion qui est celle d'écocide, alors qui n'est pas tout à fait nouvelle, qui est notamment portée par la juriste Valérie Cabanès, mais qu'on retrouve parmi les propositions qui sont celles de la Convention citoyenne pour le climat, qui vont être présentées ce matin au président de la République. Est-ce que vous êtes favorable à ce que cette notion d'écocide fasse son entrée dans le droit ?
Ah ben tout à fait, je pense même que c'est, disons que mon livre, comme d'ailleurs tous mes livres, se veut un peu un accélérateur d'opinion en faveur de la formation d'une citoyenneté justement qui portera au pouvoir non pas des Bolsonaro, des Trump ou des Morrison, qui d'ailleurs sont précisément les présidents de pays qui ont très très largement brûlé et qui continuent de brûler et qui vont continuer de brûler, mais au contraire des gens qui sont sensibles au dérèglement climatique, à la crise écologique et qui agissent en faveur du climat, comme me disaient les jeunes qui marchaient pour le climat et dont tout le monde s'est, à mon avis, très très légèrement moqué. Voilà, donc ce livre est destiné justement à plusieurs niveaux, à concerner le citoyen qui est en nous et qui, ou d'ailleurs la personne socialisée, et qui pourrait bien être confronté au feu de forêt et se sentir partie prenante finalement d'une prévention dont le feu de forêt est un aspect particulièrement tangible, puisque le feu, une fois encore, comme le disait Bachelard, une fois qu'il est là, tout change, mais qui par ailleurs serait préparé aussi à cette modification de perception des relations avec la nature qui serait favorable justement à l'épanouissement d'une pensée à la fois démocratique et écologique. Je crois que c'est cette réunion entre la démocratie et l'écologie qui me semble être la source de légitimation de l'écocide, tout simplement. Parce que l'écocide, ça n'est pas la petite personne ou la petite famille qui roule en diesel qui est responsable d'écocide. C'est d'abord, par exemple, John Ford qui incendie en 1930 un million d'hectares, enfin de 1 à 6 millions d'hectares sur les sources de forêt amazonienne pour faire pousser des EVA dans la forêt donc se procurer à bas prix le caoutchouc dont il a besoin pour la confection de ses pneus de voiture. C'est aussi évidemment Daewoo à Bornéo, Java, Sumatra qui détruit la forêt afin d'y planter des palmiers à huile. Ce sont tous ces propriétaires terriens, ces latifundistes et ces entreprises multinationales qui ont payé d'ailleurs des pompiers en Amazonie pour mettre le feu et favoriser un défraîchage dont ils ont besoin pour l'élevage à grande échelle, etc., etc., ou pour la plantation de soja transgénique. Bon, voilà, c'est ça. Là, on a des écocides majeurs. C'est-à-dire qu'il y a des grands responsables et il y a des petits responsables. Et je crois que la grande responsabilité des petits responsables, que nous sommes tous, puisque nous y contribuons, c'est justement de voter comme il faut pour parvenir à une réglementation des activités industrielles et effectivement une pénalisation des activités gravement polluantes.
Bon, tout ça sur fond. Tout ça sur fond de réchauffement climatique, puisque vous évoquiez tout à l'heure ces feux en disant ce sont toujours des feux criminels, directement ou indirectement, mais la présence du réchauffement climatique rend la lutte contre ces méga-feux plus problématique encore, Joël Zask.
Je pense que c'est le terme de lutte qu'il faudrait non pas abandonner, puisque une fois que le feu est là, il faut lutter, mais en tout cas relativiser. La lutte est un des éléments, des moyens qui sont à notre portée, et la prévention est beaucoup plus importante que la lutte aujourd'hui. Encore une fois, les méga-feux ne sont pas des feux que nous pouvons éteindre. Ils meurent de causes naturelles en quelque sorte, parce que la pluie tombe, parce que il n'y a plus rien à brûler, parce que la neige est aussi tombée, parce que on sait que les feux dévastent aujourd'hui la Sibérie. Ils se sont pendant la période de confinement, rapproché très dangereusement de Tchernobyl. Aujourd'hui, les feux de forêt ont 2 mois d'avance par rapport à la saison du feu en Sibérie, et ils sont en train de se diriger vers le cercle arctique au contact de la Suède. Donc voilà, c'est aussi, on trouve des feux de forêt gigantesques dans des régions relativement peu peuplées, qui contribuent énormément à la fonte des glaces et à la libération de méthane, bon, etc., etc. Donc là, je crois qu'on a effectivement la prévention, enfin la lutte est vaine. D'ailleurs, c'est ce que un peu avait dit Poutine au moment des méga-feux en Sibérie, en disant c'est pas la peine de dépenser de l'argent à les éteindre parce qu'on peut pas les éteindre. En revanche, ce qui était scandaleux. En revanche, oui, la prévention est très très importante. Et cette prévention, alors là aussi, du point de vue de l'enquête que j'ai menée, du point de vue du genre de philosophie que je pratique, elle est importante à considérer dans la mesure où elle doit couper à travers les disciplines, à travers les métiers, à travers les classes sociales, c'est vraiment une, la prévention n'est possible que dans la mesure où tombent toutes les frontières qui nous séparent actuellement et qui dépendent d'un très grand nombre de dualismes. Et ces frontières, ce sont celles entre les manuels et les intellectuels, ce sont celles qui sont très fantaisistes d'ailleurs, ou fictives, entre les savoirs dits traditionnels et les savoirs experts, ce sont celles qui séparent les forestiers des pompiers, ce sont celles qui séparent les ingénieurs agronomes des forestiers, ce sont celles qui séparent les peuples dits autochtones ou indigènes des peuples dits civilisés, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le feu de forêt, c'est un phénomène global, mais qui attire l'attention sur l'importance de trouver des solutions locales, mais qui seraient des solutions en quelque sorte extrêmement intégrantes, extrêmement inclusives, et qui mêleraient des gens extrêmement différents de manière à former comme un microcosme, en fait, comme une coupe de la société dans laquelle tout le monde se retrouve, de l'éducation des tout petits enfants jusqu'aux vieux sages qui s'y connaissent en gestion de forêt traditionnelle.
Joël Zask, encore toutes nos félicitations pour « Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique » qui vous vaut donc ce prix France Culture Pétrarque. Sachant qu'aujourd'hui, Hervé Gardette, vous poserez la question suivante pour cette version un peu particulière de Pétrarque. Dans quel monde vivons-nous ? Vous recevrez, je crois, Régis Debray et Philippe Descola.
À 18h15.
Et je dois dire également, Joël Zask, que vous publierez un autre essai dans quelques semaines, Zoo City des animaux sauvages dans la ville, toujours chez le même éditeur, autrement dit aux éditions Premier Parallèle.